Du coq à l'âme, c'est amplifier nos voix en racontant nos histoires depuis nos centres.
Salam alaikum, bienvenue dans Dakar Creative Talks, le podcast qui explore et célèbre les richesses créatives du Sénégal.
Bienvenue dans Dakar Creative Talks, le podcast qui explore et célèbre la richesse créative du Sénégal. Aujourd'hui, et pour changer, ce n'est pas Oumar Nian que vous avez comme host. Et je pense que cela s'entend. Et vous savez quoi? Mon invité de ce jour, dans cet épisode, est Oumar Nian, a.k.a. Minus. Je suis Zoubida Fall, Slam Aleykoum, et c'est pas celui de Minus.
Aleykoum Salam.
Alors, Oumar, depuis ton enfance, tu as été un véritable passionné d'art sous toutes ses formes, attiré par le dessin, la lecture, la musique et la récitation. Tu as rapidement développé un intérêt profond pour les cultures urbaines, en particulier le rap américain et français. Ton talent pour la déclamation de textes et de poèmes s'est révélé dès ton jeune âge, attirant l'attention de tes enseignants et de tes pairs. Cette passion t'a guidé tout au long de tes études en droit à l'université Cheikh Diop, où tu voulais faire une carrière d'avocat. Bon, on reviendra dessus plus tard. Puis tu as découvert le slam, une forme d'expression artistique qui a résonné profondément en toi. Avec le slam, tu as eu l'occasion de te produire aux côtés d'artistes renommés tels que Grand Corps Malade, Mouta Barouka, Saul Williams, lors du Festival mondial des arts nègres à Dakar. Au fil des années, tu as combiné ta formation en droit avec ta passion pour le slam, choisissant de te spécialiser en gestion des affaires en entreprise culturelle et artistique. Cette décision t'a propulsé dans le monde des industries culturelles et créatives. Fort de ces expériences et de ton engagement envers les arts et la culture, tu as poursuivi ton parcours professionnel en intégrant le domaine de la communication et de la création de contenu. En tant que communicant, tu as joué un rôle clé dans le développement de stratégies créatives de marque, alliant ton expertise en communication avec ta passion pour les arts et la culture. Ton travail t'a également amené à étendre ton champ d'action à la production audiovisuelle, contribuant ainsi au développement de projets ambitieux visant à promouvoir les industries culturelles et créatives au Sénégal. Aujourd'hui, en tant que directeur de création et producteur audiovisuel, tu t'efforces de conjuguer ton amour pour le slam, ton expertise en communication et ta passion pour le développement culturel pour créer un impact durable dans le paysage culturel sénégalais avec ton podcast Dakar Creative Talks. Ton parcours atypique et ta détermination à promouvoir l'art et la créativité, tant sur scène que dans le domaine de la communication stratégique, font de toi un acteur incontournable dans le secteur des industries culturelles et créatives. Bienvenue à nouveau dans Dakar Creative Talks.
Merci beaucoup.
Alors, ça fait quoi d'être à la place de l'invité?
Écoute, ça fait particulier. Ouais. Ça fait particulier. Surtout d'entendre parler de moi comme ça, c'est pas dans mes habitudes.
On va faire quelque chose qui est peut-être dans tes habitudes, on va parler de mots.
Ok.
D'amour de mots.
Oui.
D'où c'est que ça te vient?
Assez particulier, j'ai été très passionné de lecture et d'écriture très tôt, avec une maman qui nous poussait à la lecture et à l'écriture, en nous surveillant très souvent. C'est de là que j'ai développé cette passion. Je lisais bien, je lisais beaucoup, je déclamais bien et je m'éclatais quand on faisait les récitations en classe. Donc c'est un truc que j'adorais et c'était devenu très souvent en classe un moment où c'était les profs des autres classes qui sortaient pour venir me regarder faire mes récitations. Voilà, donc c'est vraiment naturellement que m'a suivi la passion des mots que j'ai développé aujourd'hui pour être slammer.
Et tu pensais qu'en allant au barreau, tu allais faire la même chose? Parce que je ne comprends pas comment, avec ça, tu allais faire droit.
Alors,
devant le juge, tu pensais que tu allais déclamer des choses comme ça?
Alors, c'est surtout avoir de la répartie qui est intéressant pour moi. C'est vraiment la rhétorique. C'est être là, être face au public, de pouvoir donner son idée, défendre son idée, déclamer son texte, dire ses idées, défendre ses idées, montrer à quel point on est capable d'utiliser les mots dans un contexte et de tout changer, en fait, qui était pour moi extrêmement passionnant. Maintenant, au début, c'était une passion d'avocat que je disais que je voulais être depuis très jeune. Hein. Ouais, naturellement, ça n'a pas été mon truc.
Ça n'a pas marché. Tu as tout tenté.
J'ai tout tenté. Et bon, pour la petite histoire, en réalité, je me suis fait virer de l'UQAD. Je fais partie des rares cas qui se sont fait virer de l'UQAM.
Minus Nian, qu'est-ce que tu as fait pour te faire virer de l'UQAM?
Écoute, j'ai été très malchanceux. C'est-à-dire que pendant un jour d'examen, mon téléphone était en classe, dans mon sac, au devant de la salle, là où je n'avais aucune chance pour y accéder. Il a sonné et le surveillant a dit que je trichais.
Oui.
Et je lui ai dit, je ne triche pas, c'est mon réveil qui sonne. Parce que, pour info, je logeais à l'UQAD. Je me réveillais chaque jour à 5h du matin après la prière, j'allais réviser. Je révisais jusqu'à 7h30, 8h, je revenais me coucher et je me réveillais à 9h30. Donc mon réveil, il a sonné à 9h30. À l'époque, les téléphones qu'on avait, même si tu les éteins, le réveil, il sonnait. Donc du coup, il a sonné. Je me rappelle, c'est un téléphone chinois que j'avais acheté à 12 000 francs ou un truc comme ça. Et ça m'a... Ouais, non, ça m'avait fait énormément mal et j'ai menacé le prof.
Et ce sont les menaces-là qui sont arrivées au doyen,
oui,
je suppose.
On m'a dit qu'il fallait que je présente des excuses impérativement. J'ai choisi de ne pas présenter d'excuses.
Et tu t'es fait expulser.
Et j'ai quitté. En fait, en gros, j'ai quitté. J'ai décidé de partir. C'est soit je présentais des excuses ou je ne pouvais pas faire d'examen. J'ai choisi de ne plus faire d'examen.
Et tu fais quoi après ça?
Après ça, je suis allé chercher du taf.
Ok, tu étais en quelle année déjà en droit?
En deuxième année.
Mais tu vas aller chercher du taf où?
Dans les centres d'appel.
Ah ouais, clairement.
C'était comme ça que ça s'est passé. Donc, je suis allé dans les centres d'appel. J'ai commencé à bosser dans les centres d'appel. J'étais très passionné, par contre, de ce que je faisais en droit. Je me rappelle, c'était un jour où le truc fou, c'était que c'était un examen de droit civil et le sujet que non de droit constitutionnel. Et le sujet qu'on m'a donné, c'est le sujet que j'ai traité la veille.
Droit constitutionnel, langue d'affaires.
C'était un sujet super intéressant sur lequel je bossais à l'époque. C'était Ismaël Madjorfal, mon professeur. Et donc, du coup...
Je ne ferai aucun commentaire.
Non, il n'y a pas de commentaire à
continue
faire.
Continue,
t'as c'était un sujet super intéressant. Et je l'avais traité la veille. Et du coup, j'étais en train de dérouler, mais comme si j'étais sur mon lit en train de réciter un cours. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. Mais pour moi, c'était une chance. C'était une nouvelle porte ouverte vers une nouvelle opportunité. C'est-à-dire que quelques temps après ça, j'étais en train de travailler avec des jeunes. On était en train d'écrire un magazine qui s'appelait 100% Jeune. Et je suis tombé sur une annonce qui disait qu'au British Council, ils faisaient un accompagnement des acteurs culturels sur les métiers des arts et de la culture.
Mais tu n'étais pas encore acteur culturel.
J'étais pas acteur culturel, mais j'ai grandi avec la culture à cette époque parce que j'ai des grands frères qui sont rappeurs. Donc j'ai évolué avec eux. Donc moi, en réalité, en fait, dans ma tendre jeunesse, j'ai été bercé par le hip-hop. J'ai des grands frères qui sont rappeurs, donc Kado Africa, Undershify, tous ces gens, c'est des gens avec qui j'ai grandi dans l'hip-hop. Et les fréquenter m'a fait aimer le hip-hop. Donc du coup, j'ai découvert le hip-hop français, le hip-hop américain et tout ce qui va avec. J'ai beaucoup écouté, beaucoup consommé. Et quand j'ai quitté cet univers, entre guillemets, pour aller vraiment travailler, trouver du travail et avoir un salaire à la fin du mois, je me suis retrouvé dans un centre d'appel, le TRG, où j'étais conseiller commercial et je vendais des assurances pour les magasins Labbé et Zelleuse au Canada. Alors, je m'appelais Jimmy Freeman des fois, Robert Ortega de temps en temps, Aziz Banane par moment.
On va faire un exercice. C'était quoi ta phrase de closing?
Alors, ma phrase de closing, c'était que tu la disais, que tu étais content ou pas, tu dis ça. C'est pour des informations relatives au compte HBC. Composé le 1-800-263-2599. J'ai quitté le TRG en 2008. J'ai encore cette phrase en tête.
Mon Dieu, ça peut me tuer de rire, mais c'est grave en vrai de s'en rappeler jusqu'à présent.
Bah, écoute,
c'est pour
phrase.
Te dire le nombre de fois que tu as dû répéter ça.
En fait, tu es content, tu n'es pas content. Le client, il a raccroché, il n'a pas raccroché pour clôturer l'appel, tu dis ça.
Résistance à l'échec et à la répétitivité.
Exactement. Exactement, ça sent les gens qui ont fait l'audit des centres d'appel.
Mais non, mais incroyable, incroyable. Tu me ramènes très loin.
Oui, non, mais en gros, c'est ça. Donc, toujours, j'étais dans la parole, j'étais dans l'échange, j'étais dans la séduction, j'étais dans la conviction. J'avais toujours un impératif de convaincre quelqu'un pour qu'il m'écoute, pour qu'il entende ce que je dis et pour le pousser à prendre une décision finale. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours suivi, qui m'a toujours intéressé. Et c'est ce process-là que j'imaginais encore en tant qu'avocat. Mm-hmm. Le fait de devoir argumenter, convaincre quelqu'un et avoir la satisfaction d'avoir convaincu quelqu'un sur une décision. Et c'est ça qui m'a toujours suivi jusqu'au moment où je suis...
Et tu tombes sur... Non, d'abord, l'annonce du British Council.
L'annonce du British Council, effectivement, qui était une annonce qui disait que... Parce que j'avais commencé à slammer, entre-temps. J'ai
Mais
fait une soirée
slam. Mais comment tu découvres
le slam ? En fait, je traîne avec Sceptique.
Oui.
Qui est mon grand frère, mais qui est comme mon ami. Vraiment, on a traîné ensemble et Sceptique me dit, bon, vu que tu me fatigues parce que tu crois que tu es rappeur, parce que tu as fréquenté les rappeurs et que tu écris de bons textes, je vais t'amener à un événement qui s'appelle le Vendredi Slam. Donc moi, avant ça, je ne connaissais pas le slam en France ni ailleurs.
Tu n'avais jamais entendu parler de slam.
J'ai découvert le slam avec le Vendredi Slam.
Coucou Aïcha.
Donc oui, la famille du Vendredi Slam, Aïcha Dem et tout le monde. Et donc quand j'arrive avec Sceptique et tout, donc je me pose... Je crée un texte qui s'intitule « Grandeur et ampleur ». Et je fais mon texte. Et j'en dis ça, c'est nice. Et là, on se dit, ah, ok, d'accord. Et après ça, je me dis, c'est peut-être une porte ouverte. Et Sceptique qui me dit, bon, on va y aller ensemble les prochaines fois et tout. Donc, j'arrive les prochaines fois, naturellement, je fais 2009. Ça, c'était septembre 2009. Et après cette scène, Sceptique me dit, non, Sceptique me dit, bon, écoute, tu as trouvé ton truc, donc maintenant tu peux venir tous les deux vendredi. Donc c'était tous les 15 jours. Ah ouais, 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 I'm work at the day, tout le monde le dit. Nan domadan doch dem vendredi slam. Jugé université dem vendredi slam, wala mo jugé PCCI dem vendredi slam, wala nibi goudigi do en passe.
Nga wak doha nibi.
Doha nibi. Et tout le monde. Et ce qui était intéressant dans ça... Non, voilà, mais il y a des fois où Arbi fait... Non, Arbi... Mais c'est que Arbi, il faut que tu le fasses, avant que tu le
fasses. Mais clairement.
C'est ça.
Sauf que le paradoxe, c'est que tu le fasses, tu le fasses, tu le fasses. Mais bon, on reviendra sur ça.
Mais surtout, c'est une vérité.
Voilà, on y va.
Mais le truc qui est intéressant, c'est que quand je suis tombé sur l'annonce de British Council, il disait, vous êtes acteur culturel, vous avez envie de développer vos talents, vous avez envie de faire de la gestion de projets culturels. Ceci est une occasion pour vous. Ça s'appelait le CORE. Ouais, le CORE. British Skills, CORE Skills. Et donc, du coup, je dépose sur le projet et je suis shortlisté. Ok, c'est une chance. J'y vais. Je découvre en fait que c'est vraiment de la formation et c'était l'équivalent d'une licence. Alors, je carbure, je me donne corps et âme sur ce projet, je développe des trucs, je développe vraiment de nouvelles capacités, je rencontre des gens et c'est une porte ouverte pour moi pour aller faire de nouveaux projets. J'y vais. Quand j'y vais pour faire de nouveaux projets, je rencontre des gens du British qui me mettent sur des événements, je rencontre d'autres personnes, des portes ouvertes à l'Institut français, je commence à rencontrer des gens pour des festivals et des trucs comme ça. Et je me suis dit, en réalité, c'est ça que j'aurais voulu faire. Et je me suis dit, si j'avais réussi dans le droit, j'aurais été dans le droit d'auteur. Mais manque de chance, je n'ai pas été dans le bon cadre pour les bonnes décisions au bon moment pour évoluer avec ça. À un moment donné, il fallait survivre, il fallait travailler. Je n'avais pas le temps de me mettre sur certaines choses, donc j'ai choisi de faire ma scène et de travailler pour survivre.
Il fallait manger.
Il fallait manger.
Payer les factures.
Je n'ai pas payé des factures à cet instant, mais il fallait en payer. Ouais.
Et donc, tu t'es retiré de la scène?
Je ne me suis pas retiré de la scène.
Tu t'es retiré de la scène, Minus.
Je suis resté sur la
scène. Tu n'es pas resté sur la scène, tu t'es retiré de la scène.
Je me suis retiré de la scène bien après.
Non, quand je dis tu t'es retiré de la scène, c'est que... Aujourd'hui, parce que je pensais que cette question viendrait peut-être un petit peu plus tard, ça fait... Où est l'album? Où est l'album de slam?
L'album du Vendredi Slam?
Non, ton album de slam.
Oula, moi, je peux pas... J'ai pas pu faire d'album de slam. J'ai pas pu faire d'album de slam parce que j'ai porté le projet collectif plus que le projet individuel.
D'accord.
Et j'ai tellement donné dans le projet collectif que je n'avais plus de force pour gérer un projet individuel.
Et le projet collectif est sorti quand déjà?
2014.
D'accord, ça fait 10 ans.
Ça fait très longtemps.
Tu payes toujours les factures et tu dois toujours gérer à manger. Et cet album, et à quel moment? Il est où l'artiste? Qu'est-ce qu'il est devenu dans tout ça?
Alors l'artiste, c'est quelqu'un qui vivote en moi aujourd'hui. C'est, il y a un artiste qui est en moi, qui essaye de sortir du lot.
Que tu as fait taire.
Qui a des idées qui bouillonnent. Non, à qui j'ai donné une autre plateforme pour s'exprimer en tant que concepteur-rédacteur.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, en fait, je pense que l'artiste s'épanouit dans l'industrie culturelle, dans la com, en tant que concepteur-rédacteur, en créant des concepts créatifs, en réfléchissant sur des process créatifs.
Mm-hmm.
Parce qu'en réalité, quand je dis qu'en 2008, j'ai découvert le British, après, j'ai fait beaucoup de scènes, on a fait énormément de sessions de la Grande Nuit du Slam, j'ai voyagé, j'ai eu à faire des scènes à l'international et tout ce qui va avec, et je suis revenu, j'ai fait un master en administration des arts et politique culturelle, parce que je me suis dit, ok, la scène c'est bien, mais je trouve qu'il manque des choses à la scène.
Mm-hmm.
C'était le cadre dans lequel on réfléchit la scène, dans le cadre dans lequel on réfléchit les acteurs de la scène, mm-hmm. le cadre dans lequel on réfléchit l'espace qui régit la scène.
Mm-hmm.
Et donc, j'ai commencé à travailler en ce sens en tant qu'étudiant en administration des arts et politiques culturelles. Et après, j'ai commencé à travailler en tant qu'acteur culturel. Et après, on m'a proposé un boulot. Et, j'ai été focus dans cette machine qui était la com, où je suis entré dans une agence de com en tant que concepteur rédacteur. Et depuis lors, je n'ai pas quitté la com.
Exactement.
Ouais. Non, c'est une machine. Hein. Elle te prend.
Et je pense que c'est une question, quand on est artiste, qu'on doit se poser à certains moments de sa vie.
Je suis très d'accord. Il faut choisir. Où est-ce qu'on veut aller? Comment est-ce qu'on veut y aller? Où est le projet artistique? Où est le projet personnel?
Mm-hmm.
Le projet professionnel personnel prend énormément de temps parce qu'il te permet en fait de financer ta vie artistique. Je ne dis pas que je ne ferai pas d'album de slam.
Mm.
C'est vraiment un truc que j'ai au coin de la tête. C'est quelque chose que je dis très souvent. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui me porte et qui me pousse à le faire en tant qu'artiste.
Mm-hmm.
Parce que là, je ne serai que artiste, je ne serai pas malade.
Et voilà. Et je pense que c'est le souci que rencontrent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes en tout cas. C'est qu'ils doivent occuper tous les postes. Et il y a un moment, on arrête d'être artiste en vrai. Quand on doit manger tout simplement, pour parler de manière totalement triviale, on oublie d'être artiste. Parce que les conditions ne sont pas forcément réunies pour pouvoir l'être.
Mmh.
Et quelque part, heureusement d'avoir su développer d'autres compétences, de savoir faire d'autres choses.
On n'a pas le choix, c'est un instinct de survie. C'est-à-dire que si tu sais qu'aujourd'hui... Parce que ma formation dans le métier des arts et de la culture m'a permis de comprendre en fait que les politiques n'étaient pas bien... solide pour qu'un artiste puisse survivre dans ce pays s'il n'a pas la chance du boom, la chance du buzz, la chance du hit qui marche. Et du coup, j'ai très tôt appris à faire autre chose.
Et en plus, tu es dans une niche. Hein?
Oui. Je suis dans une niche par rapport à
du slam. Le slam, c'est quand même... si on reste sur le marché sénégalais, c'est quand même réservé à une certaine catégorie, on va dire.
Écoute, c'est réservé à une catégorie qui est consommateur de bon contenu, de contenu pertinent, de contenu utile, de contenu atypique.
Je suis d'accord avec toi, hein? Je reconnais ce point. Ce que je te dis, c'est que c'est comme tu sais, pour suivre ce que tu es en train de dire, par rapport au boom, au hit, etc., si tu ne les connais pas en tant qu'artiste, tu dois vite développer d'autres mm-hmm. compétences. Je te dis d'autant plus que tu es vraiment dans quelque chose qui est une niche.
Ah oui, ah oui.
Donc le boom, il peut venir, mais ça va concerner... On va pas être...
Ah oui, c'est minime. C'est-à-dire qu'en termes d'explosion, c'est minime, c'est très minime. C'est-à-dire que tu vas exploser pendant 1 an, 2 ans. Allez. Je pousse au bouchon 3 ans, tu vas faire beaucoup de scènes. Mais après ça, il va falloir que tu te réinventes. C'est,
mm-hmm.
c'est un orchestre, c'est tu fais beaucoup de scènes.
Mm-hmm.
Et aujourd'hui, tous les gens avec qui j'ai commencé le slam, ils se sont retirés, ils ont une carrière professionnelle différente, ils sont dans autre chose. Mais ce qui était notre force aujourd'hui, le vendredi slam, c'est qu'on n'a jamais fait du slam un métier. On en mm-hmm. a toujours fait une passion.
Mm-hmm.
Et parce qu'on en a fait une passion, ceux qui n'avaient pas le temps de faire le slam parce que leur boulot était trop prenant,
mm-hmm.
ils ont la possibilité, quand ils auront le temps à tête reposée, de développer un projet personnel. Et moi, comme je t'ai dit, j'ai vraiment porté le projet du collectif parce que c'était vraiment un truc que j'aimais, je m'épanouissais dedans.
Mm-hmm.
Et ça m'a appris à travailler, ça m'a appris à être dans la gestion de projet, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, ça m'a ouvert des portes. En fait, le slam a fait la personne que je suis aujourd'hui. Et si je n'avais peut-être pas ça, je serais dans autre chose. que je n'aimerais pas autant. Que je n'aimerais pas autant. Je ne me voyais pas faire autre chose. Je serais peut-être resté dans un centre d'appel très longtemps.
Oui, ça c'est un autre problème.
Et c'est les rouages qui peuvent tuer.
J'en suis bien consciente parce qu'on connaît beaucoup de gens autour de nous que les centres d'appel ont complètement... je pense que la vie en centre d'appel, en tout cas, a complètement écrasé.
Ouais. La vie en centre d'appel, c'est un métier... En fait, c'est un métier que tu ne te rends pas compte que tu désapprends. Tu t'uses.
Complètement.
Ta santé prend un coup, ta santé mentale surtout. Et le problème, c'est que tu deviens un robot, une machine. Tu dis les mêmes choses, tu n'as plus de réflexion. Tu perds tout. Et franchement, entre finir là-bas et avoir une carrière de slammer où j'ai développé beaucoup de choses et j'ai... Moi, aujourd'hui, je ne peux pas te dire le nombre de gens que j'ai introduits pour leur première fois sur Insane Slam. Mm-hmm. Je ne peux pas te dire le nombre de gens qui m'ont dit « La première fois que j'ai écouté du slam, c'était grâce à toi. » Un gars, je le rencontre un jour, il m'a dit « Elle m'a dit oui parce que tu as déclamé un texte.
» C'est magnifique. Like...
Donc, tu vois, j'ai fait des
c'est grâce à toi
vie.
Ou à cause de toi? Ça dépend.
Ah.
C'est grâce à toi ou à cause de toi?
Écoute, c'était pendant que je faisais ma performance qu'ils se sont dit oui. Maintenant, c'est grâce
essentiel.
À moi. Wow, je sais qu'en tout cas, à un moment donné, j'ai adouci.
Le truc?
La température était bonne. Tout le monde était content. Ils se sont dit oui.
Ils se sont dit oui. Alhamdoulilah.
Les Guinac, après, vraiment, grâce, cause... J'espère que c'est grâce. C'est grâce. C'est grâce. Et tu vois, j'ai fait une performance. Un jour, quelqu'un est descendu de la scène. Il a enlevé sa montre. Il me l'a offerte.
Mm-hmm.
C'était une Hublot. Et le gars, il m'a offert la montre parce que j'ai fait une performance sur le temps. J'ai fait des performances. Je sors. Après la performance, je vais dans un resto. On a payé ma facture.
Mm-hmm.
J'ai rencontré des gens exceptionnels dans ça.
Et moi, je t'ai rencontré comme ça, d'ailleurs,
voilà,
la première fois.
Voilà.
Je crois que la première fois que je t'ai entendu faire un texte, tu as fini longtemps. Je suis restée là où j'étais tranquille.
Déglou.
Et c'était incroyable. Je pense que je ne t'ai jamais dit ça. Mais c'était vraiment incroyable.
Thank you. Merci beaucoup. Ça a vraiment plaisir. De l'entendre venir de toi, c'est rassurant.
Et non, mais moi, je suis fan de toi. Hein.
Oh. Boulard, c'est ma émission.
Non, mais demain, et ça me permet en vrai de te dire que je ne sais même pas.
Mm-hmm.
Et ça arrive à plein de gens. Je ne sais même pas si tu mesures l'effet que tu produis. À chaque fois que je rencontre quelqu'un qui parle de slam, etc., je dis, t'as déjà vu Minus sur scène? À chaque fois, il faut que tu vois Minus sur scène parce que c'est un moment. C'est un moment, c'est une expérience. On n'en sort pas indemne et c'est toujours très, très, très beau.
Ça fait plaisir.
Je ne sais pas si tu t'en rends compte.
Écoute, je m'en rends compte parce qu'en fait, la scène est devenue mon échappatoire à un moment donné. C'était vraiment un espace où je vivais.
Mm-hmm.
C'est un espace que je m'appropriais le temps de ma performance. Quand je suis sur scène, il n'y a plus rien autour de moi.
Mm-hmm.
J'oublie vraiment toute existence autour de moi. Et mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis, on s'est rencontrés sur la scène.
Mm-hmm.
Et quand on s'est retrouvés sur la scène,
mm-hmm.
on a échangé des textes que l'on se partage encore aujourd'hui. C'est le neveu de Aïcha Dem, Amel. Et du coup, on a des discussions qui peuvent être fortes et intenses souvent. Et on se rappelle que la scène nous a rapprochés. Voilà ce que moi, en fait, je garde de la scène. C'est des gens, c'est des belles personnes que j'ai rencontrées, c'est de l'humanité. Et c'est une scène qui m'a forgé et qui m'a permis de comprendre que dans la vie, en fait, je vais rencontrer des situations difficiles.
Mm-hmm.
Et je vais les dépasser, je vais me surpasser parce que j'ai la capacité de changer un monde avec mes mots, j'ai la capacité de changer un monde avec mes émotions. Et c'est ça que j'ai appris avec la scène.
Et c'est incroyable. Pour faire la transition, je t'ai réécouté récemment. Je ne sais pas pourquoi c'est revenu récemment. J'ai eu besoin de réentendre ça parce que j'adore aussi Pepeuse. J'adore Pepeuse. Et j'ai réécouté votre son et on va le passer. On va le passer là, juste là.
Juste le dire, le penser et l'écrire. Quelques mots dans tes oreilles. Quelques mots dans tes oreilles. J'aime bien virevolter au gré des mélodies, me sentir à fleur de sensations et d'émotions. J'aime ce que je sens à l'instant où mes doigts tremblotent sur ce clavier. Mes yeux sont lourds de sommeil, certes, mais se vident de leur peine qui perle sur ma joue. Je veux aimer et être aimé, crier d'une douce symphonie, sans me soucier d'une certaine harmonie. Je veux juste vivre. Je ne sais pas si je vis ou décide de ma vie, mais j'aimerais bien qu'elle soit en 16 mesures si elle devait être mélodique. Mes doigts fins au clavier se verraient habiles aux arpèges, une voix tendre avec le micro, de plus en plus douce avec vos oreilles. Hatima Kalama. Basmala, yaksila jamla tarbiya sakku kham khamla set accept ci xel yek sagonek ginaaw jurom ñaari asman la di dis ci xol yi mom teresse yi ruhi yak bawul dara dafa fek ndongo bawul dara fik jitu ne dafa tok ni fukki jit ci bang xala to ci tok dekkal sa alwo yangi ak selidia sa fi ku fi ñame dañ la dey jot na xeli xeli xol yi holi yi ne won ci boomu xol yi suñu sañe wax dafa fek ne mbedd meñu denk
Hatima Kalama.
Right a family.
Et ouais, il est toujours aussi beau.
Ouais, c'est vrai que Mbed de Lectuel, c'est un son qui a été une belle rencontre entre Poposé et moi. On a discuté une fois, on a dit, il faut qu'on fasse un truc. Il m'a appelé un jour, il m'a dit, boy, on est au studio, passe. Je passe au studio, je quitte Dakar pour aller à Rufisque. J'arrive à 18h à Rufisque, à 21h30, 22h, j'étais encore chez moi. J'étais déjà chez moi. Donc du coup, en fait, cet enregistrement, ce son, c'est pas plus de 2 heures d'enregistrement.
Mmh.
Où je suis arrivé au studio, il m'a donné le thème, j'ai enregistré. Et sincèrement, mes performances ne sont pas filmées le plus souvent.
Mmh.
Parce que je dis que mes performances sont des happenings.
Mmh.
Les gens qui sont là sur place doivent avoir l'exclusivité de ce qui se passe.
Mmh.
Et parce que je leur donne cette exclusivité, le plus souvent, je filme pas. Et ils en ont le souvenir. Ils sont les seuls à avoir eu ce moment. Et quand ils partiront, ils diront cette façon de dire le texte, il l'a fait une seule fois et c'était à cet endroit.
Et c'est exactement ce qu'on ressent, aussi bizarre que cela puisse paraître, toutes les fois où on va écouter Mbed de Lectuel. Tu vois, je suis de ce genre-là aussi. J'aime les moments. Je suis une grande amoureuse de moments. Et j'aime les souvenirs qu'on emmagasine dans sa tête, dans son cœur, avec lesquels on voyage le restant de sa vie et en les racontant. Et pourtant, toutes les fois où je réécoute cette performance qu'on vient d'entendre sur Mbed Lectuel, c'est juste magique en vrai. Et c'est magique.
Je suis très heureux de l'entendre. Et Mbed Lectuel, c'est un projet que j'ai partagé avec des gens que j'aime. Je vais parler d'Iman John. Iman a réalisé ce clip pour rien. Pour absolument rien. Et quand je dis pour rien, c'est absolument rien.
Mmh.
Paul et moi, on a fait des déplacements, on a fait des trucs. On ne sait même pas d'où est venu l'argent. C'est-à-dire que c'est une période où on faisait... We were just doing for the love. La passion était au bout de tout.
Mmh.
Et pour moi, ça, c'est vraiment ça qui m'a fait, en fait, aujourd'hui. Quel que soit où j'en suis arrivé. Alors, je te donne le processus de... Par exemple, le jour où je suis allé à un studio pour enregistrer une voix pour la première fois pour un client qui m'a dit « J'ai envie de te voir essayer des concepts créatifs. »
Mais parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé que tu es voix off et tu es une des voix off masculines qu'on entend le plus dans ce pays. Je ne pense pas que les gens s'en rendent compte, ceux qui écoutent, mais tu es une des voix off qu'on entend le plus.
C'est vrai. Écoute, j'ai été voix off la première fois. Je suis voix off. La première voix off que j'ai faite, ça a été faite avec Bambino. Qui m'a mis sur un projet. Je pense que c'était un client Maristop. Et après, il y a Caractère qui m'a appelé et qui m'a fait confiance sur un projet. Il ne m'avait jamais vu. C'était Tige qui était là-bas à l'époque, concepteur-rédacteur. C'est des gens comme ça, créatifs fous, qui m'ont vu et qui m'ont dit « On veut te voir sur tel projet, on veut que tu essayes telle chose.
Mm-hmm. »
Et après, j'ai fait la pub du Beurre Sophia. Cette pub m'a suivi. Et la phrase, c'était « Soubetel, Yéou, Kramatikirgi, » Delsemburu diw ba mu toy xamp bi tiaf ka moy li gëna neex ci bëss bi. Et le truc, cette pub là, non mais c'est fou, mais c'est des trucs qui te restent en tête parce que tu dis c'est des moments. Et j'avais l'impression que chaque fois que je faisais une voix off, j'étais sur une performance. Et naturellement, les choses m'ont suivi. Je me suis retrouvé à coacher plein de gens sur des voix, alors que moi j'ai été coaché par Carole sur beaucoup de voix. Carole Boudbien, qui est à Caractère, qui était à caractère, qui a été mon mentor dans la conception-rédaction, m'a tellement coaché. Elle m'a dit, il faut que tu changes ta voix, il faut que tu passes de ça à ça, il faut que tu passes de cette émotion à cette émotion. Et je me suis retrouvé à changer énormément de trucs. Mm-hmm. Donc, en tant que concepteur-rédacteur, quand j'écrivais les voix, j'imaginais comment est-ce qu'elles se disaient. Donc, ma créativité se... Mais vraiment, je multipliais ma créativité grâce à la voix off. Mm-hmm. Donc, du coup, tout ce que j'ai fait, continuité, slam, écriture, déclamation, capacité de conviction, aller vers la décision finale.
Mm-hmm.
C'était ça.
Exactement ça.
Ouais, c'était ma chance. Et donc aujourd'hui, c'est ça qui m'a vraiment mené à aller plus dans la créativité, dans la communication et même dans les industries culturelles et créatives.
Mais tu sais que je ne lâcherai pas ta veste pour l'album. Tu en es conscient?
Écoute, très sincèrement,
vient de dire.
Je te le dis officiellement devant tout le monde ou dans les oreilles de tout le monde. Moi, je ne veux que quelqu'un qui me prend et qui me met sur un projet pour que j'exécute. J'ai 20 mes idées. Pour te dire la vérité, Sahad s'est proposé pour être mon directeur artistique sur le projet de l'album. Je lui ai dit, Sahad, si tu es directeur artistique, je n'ai pas besoin que d'un directeur artistique, j'ai besoin de quelqu'un qui mène le projet à bien.
Tu connais l'expression « Wong anar zigour mso ».
Mais n'ingour.
Et ça tombe bien, nar là.
Ouais, grave, n'ingour. N'yau nar nga, man amna ma mounar, ça m'a Michel Fall le tout doux.
Gisga, dina am nyo khamenteni, dina nyo diglou li ni.
Ouais.
Voilà.
Graw
ni la ni nga def xamuloko est ce xam nga ki
non graw nañ ngour
wa kon baxna amul ben problème
man ma ngi ni man kuma yubu ma créer rek ma créer la
légui on a parlé et sans transition aucune on a parlé de toi on a parlé d'un petit peu de tout ce parcours artistique par contre ce qu'on n'a pas fait c'est reparler et à la base c'est ce qu'on devait faire parler de Dakar Creative Talks. Tu n'étais pas censé être un invité qui parle de son parcours, on était censé parler de Dakar Creative Talks. Bref, on va revenir sur pourquoi, sur le pourquoi, sur le comment et sur le jusqu'où.
Alors, Dakar Creative Talks a été une réflexion qui a suivi un long process. Un long process de ma formation, de mon parcours et des projets sur lesquels j'ai travaillé. J'ai animé avec Carole Diop de Africada, SNR, qui était une plateforme en fait sur laquelle on parlait des métiers, des arts et de la culture. On a fait énormément de rencontres. Beaucoup de gens sont venus sur le plateau, on a parlé des choses. Après, on était épuisés. Parce que financièrement, c'est épuisant.
Oui.
En termes d'énergie, en termes de préparation, c'est épuisant. Et si ça ne paye pas tes factures à la fin du mois, tu ne te donnes plus pour ça.
Clairement.
Donc, les projets, les carrières ont évolué. Carole est passée à autre chose, moi je suis passé à autre chose. Mais à un moment donné, j'étais toujours dans les industries culturelles et créatives et je voyais en fait beaucoup de choses, les projets sur lesquels je travaille, les lacunes qu'il y a, les gens pour lesquels j'écris des projets, les besoins de développer de nouveaux projets sur lesquels il n'y avait pas d'accompagnement, de suivi. Et quand on appelait les gens, les acteurs culturels des fois, sur certaines choses, pour qu'ils fassent des réflexions sur les projets culturels, chacun développait un projet individuel qu'il voulait faire sponsoriser ou qu'il voulait faire accompagner. Mais quel était l'impact réel de ce projet sur une grande échelle? Et c'est cela qui m'a poussé à réfléchir sur les projets qui vont pousser les gens à voir plus grand, plus gros, plus de formation, plus d'acteurs. Parce qu'aujourd'hui, développer les industries culturelles et créatives dans ce pays, c'est régler un gros problème de chômage. Parce que tu vas développer des centres culturels si tu le veux, tu vas développer des espaces de formation, tu vas développer des espaces de création. Et il y a beaucoup de talents qui sont là, qui n'attendent que des espaces pour créer. Et tu crées, tu vends, tu crées, tu fais tourner, tu fais prospérer les jeunes. Et c'est vraiment cette réflexion qui m'a poussé, après SNART, à penser Dakar Creative Talks. Dakar Creative Talks, je l'ai fait la première fois dans une villa qui s'appelle Ouma, dans la boîte où j'étais à Ouma. Et on a essayé de faire ce projet. On l'a fait pendant la biennale de 2022. On avait invité Massambadou de Maraudi, Alfie, l'esthète qui était créatrice de contenu, Rouman, qui est venue parler du J-Thérapé. Et on a essayé de parler des chiffres autour de toutes ces entreprises. Et après, il fallait de l'accompagnement, il fallait que j'ai des gens qui me comprennent et qui étaient capables de me suivre dans cette logique. Malheureusement, la boîte dans laquelle je bossais, on n'a pas eu les mêmes visions. Donc, j'ai dû partir avec mon projet et c'est après que j'ai décidé de le développer. Mais avant de le développer, en fait, je me suis retrouvé en fait de concepteur rédacteur à directeur de création dans une boîte. Puis, après directeur de création, j'étais chargé de développer en fait un hub créatif dans lequel les créatifs et les acteurs culturels pouvaient se rencontrer dans cette ville-là. Et quand je suis parti, j'ai eu un break et j'ai rencontré l'iPro. On a beaucoup discuté. Il m'a dit, j'ai des projets sur lesquels je travaille. Est-ce que tu veux que je te confie la direction ? Je lui ai dit oui. J'étais directeur de production sur certains projets. On a travaillé sur deux projets en freelance. Après, il m'a dit, gars, je te veux dans mon équipe. Est-ce que tu es prêt à rejoindre ? Je lui ai dit, écoute, moi je veux. Et j'ai rejoint l'AI. Et après pendant un an, on a travaillé sur énormément de projets. Mm-hmm. En gros, pendant un an, on a travaillé sur 80 projets qui étaient très intéressants.
Et vous avez travaillé sur de beaux projets.
Beaucoup d'énergie. Mm-hmm. Et j'ai beaucoup appris avec l'AI. Et après, j'ai dit, je vais faire un break. Je vais prendre du temps pour moi. Je vais faire un focus sur Dakar Creative Talks. Et c'est là que j'ai décidé de relancer avec Zubida, qui a pris un bantou balai et qui m'a mis dans un coin. Elle m'a dit, tu fais le premier épisode de Dakar Creative Talks. Le premier épisode de Dakar Creative Talks. Ou sinon, bantou balai ma tchao. Donc, elle m'a mis sur une plateforme. Elle m'a dit, voici les fiches. Quelles sont les dates d'enregistrement? Qui c'est que tu prévois d'inviter? Comment est-ce que tu prévois de le faire? Et là, du coup, la machine était lancée. Sans oublier que dans ce process, il y a une amie qui s'appelle Adjaratou Kosfei, qui dans le processus de réflexion de ce projet m'avait beaucoup aidé. Et du coup, elle faisait partie des premières personnes que j'ai pensé à inviter sur le Dakar Creative Talks. Donc du coup, j'en profite pour lui dire que son invitation arrive, donc qu'elle se prépare. Mm-hmm. Et tous les gens-là, je leur dis leur nom tout de suite. Laipro, Adia, Sele, Omar Sal, Ousmane Faye. Préparez-vous, je vais vous inviter sur le Dakar Creative Talks très bientôt. Il y a des
beaux procès qui sont venus à Koulim
Djoum. Ils sont venus à Koulim Djoum. Ah, je ne sais pas. Ils sont venus à Koulim Djoum, mais ils sont venus à Koulim Djoum. Donc du coup, Dakar Creative Talks, c'est vraiment pour moi une plateforme sur laquelle on explore les richesses culturelles et créatives du Sénégal. Tout le monde est invité. Et l'idée pour moi, c'est de créer une plateforme sur laquelle on va parler des métiers. Parce qu'il y a beaucoup de choses à développer, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et il faut qu'il y ait des gens qui créent un univers pour que les gens en parlent. Les industries culturelles et créatives sont en plein essor dans ce pays. Les industries culturelles et créatives, c'est énormément d'univers à explorer, à exploiter pour de la création de valeur, pour le développement de l'économie de ce pays.
Merci beaucoup Minus, merci beaucoup Omar, merci beaucoup pour l'album que tu vas nous faire en 2025, merci pour Dakar Creative Talks, merci d'avoir accepté.
C'est mon plaisir.
De prêter au jeu. Manak, en ce qui me concerne, Contana Torop. Merci pour la confiance. Allahumma amin wa yalna fi gejj tamit. Deng. Waye mu démé non.
Suma délé conseiller est présent officiellement.
Merci beaucoup. Mais on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Dakar Creative Talks.
On remercie nos amis.
Merci Ahmed à la réalisation, merci Pi qui est au son, merci à Salimata en tant qu'assistante de production et Larissa pour la régie de Toussi. Merci beaucoup.
Du Coq à l'âme, média de podcast.